L'âme d'un guerrier, chapitre 2. Tel est le secret des circonstances qui permirent aux représentants de notre empereur d'éviter la captivité. Lui et toute sa maison officielle réussirent à sortir de France sans encombre, comme le rapporte l'histoire. Et parmi sa suite se trouvait naturellement notre Tomassoff. Il avait, au sens où l'entendait l'officier français, l'âme d'un guerrier. Et quelle perspective plus désolante pour un homme doué d'une telle âme que de se voir détenu, à la veille d'une guerre, de se voir coupé de son pays en danger, de sa famille militaire, de son devoir, de son honneur, et, si vous voulez, de la gloire aussi. Tomassoff frissonnait chaque fois qu'il pensait à la torture morale à laquelle il avait échappé. Et il en nourrissait dans son cœur une gratitude infinie pour les deux personnes qu'il avait sauvées de cette cruelle épreuve. Ils étaient merveilleux. Pour lui, l'amour et l'amitié n'étaient que deux aspects de l'extrême perfection. Il en avait trouvé deux exemples, et il leur vouait ainsi une sorte de culte. Cela influençait son attitude envers les Français en général, quoiqu'il fût grand patriote. Il était naturellement indigné de l'invasion de son pays, mais cette indignation ne contenait aucune animosité personnelle. C'était essentiellement une belle nature. Il déplorait l'effroyable quantité de souffrances humaines qu'il voyait autour de lui. Oui, il était rempli d'une mâle compassion pour toutes les formes de la misère humaine. Des natures moins fines que la sienne ne comprenaient pas cela très bien. Dans le régiment, on l'avait surnommé l'humain Tomassoff. Il ne s'en offensait pas. Il n'y a rien d'incompatible entre l'humanité de sentiment et l'âme d'un guerrier. Les gens dénués de compassion, ce sont les civils, les fonctionnaires, les marchands et d'autres gens de cette espèce. Quant aux autres propos féroces qu'on entend sortir en temps de guerre de la bouche des personnes raisonnables, eh bien, la langue est, dans les meilleures conditions possibles, un organe rebelle, et quand il s'y mêle quelques raisons d'excitation, on ne saurait arrêter sa furieuse activité. Aussi n'avais-je pas été très surpris de voir notre Tomassoff remettre délibérément l'épée au fourreau, au beau milieu de cette charge, pour ainsi dire. Comme nous revenions ensuite, il resta très silencieux. Il n'était pas bavard en temps ordinaire, mais il était évident que d'avoir vu de près la grande armée l'avait profondément impressionné, comme un spectacle qui n'était pas de ce monde. Moi, je n'ai jamais eu la faculté de m'émouvoir facilement, et bien même moi, et imaginez ce garçon avec ce côté poétique dans sa nature. Vous pouvez vous représenter ce qu'il en faisait. Nous chevauchions côte à côte sans ouvrir la bouche. Cela passait toute parole. Nous établîmes notre bivouac à la lisière d'une forêt de façon à avoir un abri pour nos chevaux. Cependant, ce furieux vent du nord s'était apaisé aussi promptement qu'il s'était élevé, et le grand calme de l'hiver s'étendait sur tout le pays, de la Baltique à la mer Noire. On pouvait presque sentir sa froide, insensible immensité s'étendre jusqu'aux étoiles. Nos hommes avaient allumé des feux pour leurs officiers et avaient dégagé la neige alentour. Nous avions de grosses bûches comme sièges. C'était en somme un bivouac très tolérable, même sans l'exaltation de la victoire. Nous l'éprouvâmes plus tard, mais à ce moment-là, nous étions accablés par la rude nécessité de notre tâche. Nous étions trois autour du feu. Le troisième était cet adjudant. C'était peut-être un garçon bien intentionné, mais pas un aussi bon garçon qu'il aurait pu l'être s'il eût été mieux élevé et plus délicat dans son jugement. Il raisonnait sur la conduite des gens comme si un homme était quelque chose d'aussi simple que, mettons, deux bâtons mis en croix, alors qu'un homme est bien plutôt comme la mer, dont les mouvements sont trop compliqués pour qu'on les explique, et dont les profondeurs peuvent faire surgir Dieu seul sait quoi à tout moment. Nous causâmes un peu de cette charge. Pas beaucoup. Une chose pareille n'est pas un sujet de conversation. Tomassoff murmura les mots « simple boucherie ». Je n'avais rien à répondre. Comme je vous l'ai dit, j'avais bientôt laissé pendre mon épée inutile à mon poignet. Cette foule famélique n'avait pas même essayé de se défendre. Quelques coups de feu seulement. Nous avions eu deux hommes blessés. Deux. Et nous avions chargé le gros de la colonne de la grande armée de Napoléon. Tomassoff murmura tristement « à quoi bon tout cela ?» Je n'avais nulle envie de discuter, aussi marmonnai-je simplement « ah oui !» Mais l'adjudant s'en mêla fâcheusement. « À quoi bon ? a réchauffé un peu les hommes. Ça m'a réchauffé, moi. C'est une assez bonne raison. Mais notre Tomassoff est si humain. Et de plus, il a été amoureux d'une Française et lié comme les doigts de la main avec des tas de Français. Aussi, il en est fâché pour eux. Ne vous inquiétez pas, mon vieux. Nous sommes maintenant sur le chemin de Paris et vous verrez bientôt votre dame. C'était un de ses propos habituels et que nous jugions absurde. Nous pensions tous que pour arriver à Paris, cela prendrait des années. Et voyez, moins de 2 ans après, je me faisais rafler un tas d'argent dans un tripot du Palais Royal. La vérité étant la chose la plus inconséquente du monde, ce sont quelquefois les fous qui la distinguent. Je ne pense pas que notre adjudant croyait ce qu'il disait. Il ne cherchait qu'à taquiner Tomassoff comme à son ordinaire. Comme nous ne disions rien, il se mit la tête dans les mains et, assis sur une bûche devant le feu, se mit à faire un somme. Notre cavalerie était à l'extrême aile droite de l'armée et je dois avouer que nous la gardions fort mal. Nous avions perdu alors tout sentiment d'insécurité, mais nous conservions tout de même la prétention de l'avoir encore. À ce moment, un de nos hommes amena un cheval. Tomassoff se mit en selle avec raideur et s'en fut inspecter les avant-postes. Des avant-postes parfaitement inutiles. La nuit était paisible, on n'entendait que le crépitement des feux. Le vent furieux s'était élevé bien au-dessus de la terre, et on n'en pouvait même plus entendre le plus léger souffle. Seule la pleine lune émergea soudainement dans le ciel et resta suspendue, haute et immobile, au-dessus de nous. Je me rappelle avoir un moment levé vers elle mon visage hirsute. Alors je crois bien que je m'assoupis, moi aussi, plié en deux sur ma bûche, la tête tournée vers la flamme ardente. Tout à coup, mon ordonnance parut devant moi, répétant « Votre honneur voudrait-il manger un morceau ?»« Votre honneur voudrait-il manger un morceau ?» Il m'offrait une écuelle enfumée contenant quelques graines bouillies à l'eau avec une pincée de sel. Une cuillère en bois s'y tenait debout. C'était alors les seules rations régulières que nous avions. De la nourriture bonne pour les poules, ma parole. Mais le soldat russe est merveilleux. Mon homme attendit que j'eusse fini, et puis s'en fut, en emportant l'écuelle vide. Je n'avais plus sommeil. J'étais complètement réveillé, et avec une conscience extrêmement aiguë de ce qui se passait dans les alentours immédiats. Ce sont là des moments exceptionnels pour un homme, je me plais à le dire. J'avais le sentiment intime de la terre dans toute son énorme étendue, enveloppée de neige, où rien ne se distinguait si ce n'est les arbres avec leurs troncs tout droits comme des tiges et leur verdure funèbre. Et dans ce tableau de tristesse générale, il me semblait entendre les soupirs de l'humanité qui tombait pour mourir au milieu d'une nature sans vie. C'étaient des Français. Nous ne les haïssions pas. Ils ne nous haïssaient pas. Nous avions vécu loin les uns des autres, et soudain, ils s'étaient précipités les armes à la main, sans craindre Dieu, amenant avec eux d'autres nations, et pour périr tous ensemble dans une longue, longue traînée de cadavres gelés. J'eus la vision même de cette traînée de cadavres, pathétique multitude de petits monticules sombres sous le clair de lune, dans une atmosphère limpide et impitoyable, une sorte de paix horrible. Mais quelle autre paix pouvait-il y avoir pour eux? Que méritaient-ils d'autre? Je ne sais pas par quelle association d'émotions me vint la pensée que la Terre était une planète païenne et non pas un séjour convenable aux vertus chrétiennes. Vous pouvez vous étonner que je me rappelle tout cela si bien. Comment une émotion passagère ou une pensée à demi formée peut-elle durer tant d'années dans la vie changeante et disparate d'un homme? Mais ce qui a fixé l'émotion de ce soir-là dans mon souvenir, si bien que les moindres nuances en sont restées indélébiles, ce fut un événement d'une finalité étrange, un événement qu'on ne saurait oublier dans l'espace d'une vie entière, comme vous allez le voir. Je ne crois pas que ces pensées m'eussent occupé plus de 5 minutes quand quelque chose me poussa à regarder par-dessus mon épaule. Je ne pense pas que ce fût un bruit. La neige étouffait tous les sons. Ce dut être quelque chose comme un signal qui avertit ma conscience. En tout cas, je tournai la tête et l'événement s'approchait de moi. Non pas que je le reconnusse, ni que j'en eusse même le plus léger soupçon. Tout ce que je vis, à distance, ce furent 2 hommes qui s'avançaient au clair de lune. L'une d'elles était Tomassoff. La masse sombre qui remuait derrière lui était le cheval que son ordonnance emmenait. Tomassoff était une apparition bien familière, avec ses longues bottes. haute silhouette qui se terminait par un capuchon en pointe. Mais à ses côtés s'avançait une autre forme. Je n'en crus pas d'abord mes yeux. C'était incroyable. Cela avait un casque brillant sur la tête et était enveloppé d'un manteau blanc. Le manteau n'était pas aussi blanc que la neige, rien au monde n'est aussi blanc. L'apparition était blanche plutôt comme une vapeur, avec l'aspect d'un fantôme extraordinairement martial. C'était comme si Tomassoff s'était emparé du dieu de la guerre même. Je pus voir de suite qu'il tenait par le bras cette resplendissante vision. Puis je vis qu'il la soutenait. Tandis que je regardais, ils avançaient à peine, mais ils avançaient, tant qu'à la fin ils arrivèrent dans la lumière de notre bivouac et passèrent devant le tronc d'arbre où j'étais assis. Le reflet du feu jouait sur le casque. Il était extrêmement bossué, et le visage meurtri de froid, couvert de plaies qu'on distinguait dessous, était encadré de morceaux de fourrure râpés. Ce n'était pas le dieu de la guerre, mais un officier français. Le manteau du grand cuirassier blanc était déchiré, brûlé, tout troué. Les pieds étaient enveloppés de vieilles peaux de mouton par-dessus des restes de bottes. Ils avaient un air monstrueux, tandis qu'ils chancelaient sur eux, soutenus par Tomassoff qui l'aida à s'asseoir sur la bûche où j'étais. Mon étonnement ne connut plus de bornes. « Vous avez amené un prisonnier, » dis-je à Tomassoff, comme si je n'en pouvais croire mes yeux. « Vous devez savoir qu'à moins qu'ils se rendissent en masse, nous ne faisions pas de prisonniers. À quoi cela eût-il servi ? Nos Cosaques ou bien tuaient les traîneurs, ou bien les abandonnaient à eux-mêmes. En fin de compte, cela revenait au même. » Tomassoff tourna vers moi un regard très troublé. « Il a surgi du sol quelque part, comme je quittais les avant-postes, » dit-il. « Je crois qu'il se dirigeait dessus, car il s'est jeté comme un aveugle contre mon cheval. Il a saisi ma jambe, et naturellement, aucun de mes hommes n'a osé y toucher. « Il l'a échappé belle, » dis-je. « Il ne s'en est pas rendu compte, » dit Tomassoff, l'air plus troublé qu'auparavant. « Il est venu, accroché à mon étrier, c'est ce qui m'a retardé. » Il m'a dit qu'il était un officier de l'état-major, puis d'une voix pareille, je crois bien, à celle que doivent avoir les damnés, un croissement de rage et de douleur, il m'a dit avoir un service à me demander, un service suprême. « Est-ce que je le comprenais ?» m'a-t-il demandé, dans une sorte de murmure diabolique. Naturellement, je lui ai répondu que oui. J'ai dit « Oui, je vous comprends. » « Alors, » m'a-t-il dit, « maintenant, tout de suite, par pitié. » Tomassoff s'arrêta et me regarda étrangement par-dessus la tête du prisonnier. « Que voulait-il dire ? » demandai-je. « C'est ce que je lui ai demandé, » répondit Tomassoff d'un air égaré. Et il m'a dit que le service qu'il me demandait était de lui faire sauter la cervelle. « Comme un frère d'armes, » m'a-t-il dit, « comme un homme de cœur, comme un homme humain. » Le prisonnier était assis entre nous comme une effrayante momie balafrée. Un martial épouvantail, une horreur grotesque de chiffon et de saleté, avec des yeux terriblement vivants, plein de vivacité, tout animé d'un feu inextinguible, dans un corps accablé de misère, un squelette au banquet de la gloire. Et tout à coup, ses yeux brillants se fixèrent sur Tomassoff. Lui, le pauvre diable, fasciné, lui rendit le regard affreux d'une âme souffrante dans ce qu'on pouvait à peine appeler un homme. Le prisonnier dit, en français, d'une voix effroyablement rauque, « Je vous reconnais, vous savez. Vous êtes son jeune russe. » « Vous étiez très reconnaissant. Je viens vous demander de payer votre dette. Payez-la, je vous dis, d'un coup de feu libérateur. Vous êtes un homme d'honneur. Je n'ai pas même un tronçon de sabre. Tout mon être recule devant ma propre dégradation. Vous me connaissez. » Tomassoff ne disait rien. « N'avez-vous donc pas l'âme d'un guerrier ? » demanda le Français dans un mouvement de colère, mais où perçait comme de la moquerie. « Je ne sais pas. » répondit le pauvre Tomassoff. Quel regard de mépris cet épouvantail lui lança, de ses yeux qui ne voulaient pas s'éteindre. Il ne semblait survivre que par la force d'un enragé et impuissant désespoir. Soudain, il haleta et tomba en avant, se tordant dans l'agonie d'une crampe de tous les membres. Effet assez habituel causé par la chaleur d'un feu de bivouac. On eût dit l'application d'une horrible torture. Il essaya d'abord de lutter contre la douleur. Il poussa un faible gémissement lorsque nous nous penchâmes vers lui pour l'empêcher de rouler dans le feu, et il murmura fiévreusement à plusieurs reprises, « Tuez-moi ! Tuez-moi !» Jusqu'à ce que, vaincu par la douleur, il se mit à crier à travers des lèvres désespérément contractées. Notre adjudant s'éveilla de l'autre côté du feu et se mit à jurer contre le tapage insupportable que faisait l'officier français. « Qu'est-ce que c'est ? Encore un coup de votre infernale humanité, Tomassov ? » hurla-t-il vers nous. « Pourquoi ne le faites-vous pas jeter dehors sur la neige ?» Comme nous ne prêtions aucune attention à ces exclamations, il se leva en jurant abominablement et alla s'asseoir auprès d'un autre feu. Bientôt l'officier français s'apaisa. Nous l'appuyâmes contre la bûche et restâmes silencieux de chaque côté de lui jusqu'au moment où les clairons firent entendre leur appel à la pointe du jour. La grande flamme entretenue toute la nuit pâlissait sur le drap blanc de la neige, tandis que tout autour, l'air glacé résonnait des notes cuivrées des trompettes de cavalerie. Les yeux du Français, fixés sur un regard vitreux qui par moments nous fit espérer qu'il était mort tranquillement assis entre nous deux, allaient lentement de droite à gauche, regardant nos visages l'un après l'autre. Tomassov et moi, nous échangeâmes un regard d'effroi. Alors la voix de De Castel, dont la force revenue, l'effrayante maîtrise, nous fit frissonner intérieurement. « Bonjour, messieurs !» Son menton tomba sur sa poitrine. Tomassov me dit en russe, « C'est lui, c'est l'homme lui-même. » Je fis un signe d'assentiment, et Tomassov reprit d'un ton angoissé, « Oui, oui, brillant, accompli, envier les hommes, aimer cette femme. Cette horreur, cette misérable chose ne peut pas mourir. Regardez ses yeux, c'est terrible. » Je ne regardais pas, mais je compris ce que Tomassov voulait dire. Nous ne pouvions rien pour lui. Cet hiver vengeur nous tenait les uns et les autres dans sa griffe de fer, fugitif et poursuivant. La compassion n'était qu'un vain mot devant cette impitoyable destinée. J'essayais de dire quelque chose au sujet d'un convoi qu'on réunissait sans doute au village, mais le cœur me manqua devant le regard muet que me jeta Tomassov. Nous savions bien ce qu'étaient ces convois, effroyable troupe de malheureux désespérés, conduite à coups de hampe de lance par les Cosaques, à travers l'enfer glacé, le visage tourné vers l'exil. Nos deux escadrons avaient été formés à la lisière de la forêt. Des minutes d'angoisse s'écoulèrent. L'officier français soudain essaya de se mettre debout, nous l'aidâmes sans presque savoir ce que nous faisions. « Voyons, » dit-il d'un ton tranquille, « c'est le moment. » Il fit une longue pause, puis très distinctement reprit, « Sur mon honneur, je n'ai plus ni foi ni courage. Tout cela est mort en moi. » Sa voix soudain perdit toute maîtrise, et après avoir attendu un peu, il répéta dans un murmure, « Même mon courage, sur mon honneur. » Un autre silence suivit, avant qu'avec un grand effort, il pût murmurer d'une voix rauque, « N'est-ce pas assez pour émouvoir un cœur de pierre ? Faut-il se mettre à genoux devant vous ?» De nouveau, un profond silence tomba sur nos trois. Alors l'officier français lança à Tomassov un dernier mot de colère, « Blorbeck !» Pas un trait du pauvre garçon ne remua. Je compris qu'il fallait aller chercher deux hommes pour mener ce misérable prisonnier au village. Il n'y avait rien d'autre à faire. Je n'avais pas fait six pas vers le groupe de chevaux et d'ordonnances réunis devant notre escadron, quand... Mais vous avez deviné. Bien sûr, moi aussi je devinais. Car je vous donne ma parole que le coup de pistolet de Tomassov était la chose la plus insignifiante qu'on puisse imaginer. La neige assurément assourdit le son. On put à peine l'entendre. Parmi les ordonnances qui tenaient nos chevaux, je ne pense pas qu'il y en eût un seul qui tourna la tête. Oui, Tomassov avait fait cela. La destinée avait conduit ce De Castel vers l'homme qui pouvait le comprendre parfaitement. Mais il était écrit que ce pauvre Tomassov serait la victime du destin. Vous savez ce que sont le jugement du monde et la justice des hommes. Ils s'appesantirent sur lui avec une sorte d'hypocrisie à rebours. Oui, cette brute adjudant lui-même fut le premier à faire des allusions horrifiées à cet assassinat d'un prisonnier de sang-froid. Tomassov ne fut pas renvoyé du service, cela va sans dire. Mais, après le siège de Danzig, il demanda la permission de démissionner et alla s'enterrer dans le fond de sa province où la vague histoire de quelque étrange aventure plana sur lui pendant des années. Oui, il l'avait fait. Et puis après, l'âme d'un guerrier payant sa dette au centuple à l'âme d'un autre guerrier, en lui épargnant un sort pire que la mort, la perte de toute foi et de tout courage. On peut voir la chose de cette façon. Moi, je ne sais pas. Et peut-être que le pauvre Tomassoff ne le savait pas lui-même. Mais je fus le premier à approcher cet effrayant groupe sombre sur la neige, l'officier français étendu rigide sur le dos, Tomassoff, genoux en terre, plus près des pieds que de la tête du mort. Il avait enlevé sa casquette, et ses cheveux brillaient comme de l'or parmi le léger tourbillon des flocons qui s'étaient mis à tomber. Il restait penché vers le mort dans une attitude tendrement contemplative. Et son visage jeune et ingénu, aux paupières baissées, n'exprimait ni chagrin, ni sévérité, ni horreur, mais la paix d'une profonde, infinie et à jamais silencieuse méditation. Joseph Conrad, traduit de l'anglais par Georges Jean Aubry.